As-tu Calade?
Calade. 100.9.
Retrouvez As-tu Calade.
Une émission créée par les secondes de CSND de Villefranche
sur le thème de la pauvreté et de la solidarité au sein de l'économie sociale et solidaire.
As-tu Calade?
Bonjour et bienvenue sur Actu Calade. Des élèves du CSND et des classes de seconde vous présentent une émission sur la thématique de l'état de la pauvreté en 2021.
Et pour être plus précis, la pauvreté et la solidarité alimentaire au sein de l'économie sociale et solidaire, ESS.
Au sommaire, les interviews de plusieurs associations caritatives locales et pour commencer en intro, un bilan tiré du rapport du Secours catholique de 2020.
Bonjour, nous allons vous présenter le rapport du Secours catholique 2020 sur la pauvreté en France. Le Secours catholique est une association à but non lucratif créée le 8 septembre 1946 par l'abbé Jean Rodin. Il est attentif aux problèmes de pauvreté et d'exclusion de tous les publics et cherche à promouvoir la justice sociale. Reconnue d'utilité publique en 1962, l'association a été déclarée grande cause nationale en 1988. Elle établit aussi des rapports pour l'information du gouvernement en matière sociale notamment. Le Secours catholique rapporte une aide de proximité grâce à ses délégations diocésaines. L'association apporte sa contribution dans des situations d'urgence humanitaire, de crise politique ou sociale, de pauvreté ou de sous-développement. Ces actions sont menées avec les associations locales.
L'association compte aujourd'hui 79 délégations diocésaines, 3500 équipes locales et 66 000 bénévoles. Elle est également partenaire d'associations qu'elle a fondées, telles que l'association des secours populaires. Comme les Restos du Cœur créés par Coluche, le secours catholique propose des repas, cependant ils ne sont distribués qu'en guise de secours. L'association vient en aide à plus de 1,5 million de personnes. 65% des personnes accueillies par le Secours catholique vivent dans l'extrême pauvreté. Nous allons parler de l'état de pauvreté en France d'après le dernier rapport 2020 du Secours catholique. Une partie de la population vit avec seulement 200 ou 300 euros par mois, parfois moins.
Autour de 500 euros, on retrouve les deux minima sociaux que sont le RSA et l'allocation de solidarité spécifique. On est encore loin des 700 euros du seuil de la pauvreté le plus faible. Voici des chiffres clés. Le niveau de vie médian correspond à 50% de la population qui vit avec moins de 1770 euros par mois. Le montant du SMIC net est de 1200 euros par mois. La part de la population pauvre est de 8,3%. Le niveau de seuil de pauvreté, il existe plusieurs seuils de pauvreté qui sont chacun définis en proportion du niveau de vie médian. Le rapport utilise le seuil fixé à la moitié du niveau de vie médian, soit 885 euros par mois pour une seule personne. Le nombre de pauvres. 5,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté de 50% de niveau de vie médian.
Nombre d'allocataires du RSA. Les données sur le RSA donnent une première mesure de l'effet de crise du Covid sur l'évolution du nombre de personnes démunies. Le niveau de vie d'une personne au RSA se situe au-dessous du seuil de pauvreté. Grandir dans une famille de pauvres. 1,5 million d'enfants, soit 1 sur 10, de moins de 18 ans, vivaient dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté de 50% du niveau médian. Ces enfants vivent dans la pauvreté, mais ils ne sont pas pauvres par eux-mêmes. Ce sont des enfants de pauvres. Le plus souvent, leurs parents sont au chômage ou inactifs. Les enfants qui vivent avec leur mère seule sont les plus exposés. Les jeunes en première ligne, 22% des jeunes de 18 à 29 ans qui vivent seuls, hors étudiants, figurent parmi les pauvres. Jusqu'à 25 ans, ils n'ont pas le droit à un minimum de social. Conclusion, pour les chiffres clés sur la pauvreté, tout au long de cette émission, nous allons rencontrer les associations locales qui aident les plus pauvres. Pour clore ce rapport, une pause musicale avec une chanson de Jessie J.
Heels. be the garage. And all I, yes, all I need is keys and guitars. And just within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money. The price tag.
Ah. Actu Calade.
Tout de suite, une interview du CIAS, ESSO, une structure d'action sociale de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Une association qui intervient dans le milieu social de la localité.
Nous avons interviewé Perrine Spé, coordinatrice de l'antenne de Villefranche, action sociale, agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.
Bonjour. Merci de, en tout cas d'être venu ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Perrine Spé et je suis la responsable du CIAS, Centre intercommunal d'action sociale.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce que le CIAS et quel est son but ?
Alors, donc le CIAS est une structure qui dépend de l'agglomération de Villefranche et qui intervient principalement sur les quartiers prioritaires de Villefranche, donc à Bellini, Belleroche et le quartier du Garret. Et on a deux projets qui sont des projets éducatifs. Donc le PRE, le programme de réussite éducative, qui a pour objectif d'accompagner des enfants qui sont en difficulté ou en situation de fragilité. Donc tous ces enfants sont orientés en général par les écoles. Et un autre projet éducatif qui est plus à destination des parents, qui est la mission parentalité, où là l'idée c'est d'accompagner des parents dans leurs difficultés éducatives.
Pourquoi ces quartiers-là sont ciblés en priorité ?
Alors, ces quartiers sont définis comme des quartiers prioritaires et c'est au niveau national une agence qui s'appelle l'ANCT, Agence Nationale de Cohésion des Territoires, et qui définit ce qu'on appelle une géographie prioritaire. Et donc, il y a en France, je pense, à peu près 200 quartiers qui sont identifiés comme prioritaires par rapport au niveau de vie moyen des personnes qui vivent sur ces quartiers. Et donc, à Villefranche, il y en a 3. Et donc, on a, nous et puis d'autres acteurs, ont des financements spécifiques pour travailler sur ces quartiers et monter des projets sur ces quartiers-là.
Comment peut-on demander de l'aide chez vous ?
Alors, de différentes manières. Comme je disais, sur le programme de réussite éducative, les enfants qui sont accompagnés chez nous sont orientés par des partenaires, donc soit par les écoles ou par des travailleurs sociaux. Et puis, le projet qu'on mène à destination des parents, il est vraiment ouvert à tous les parents qui ont besoin d'échanger ou de réfléchir sur des problématiques en lien avec leurs enfants, principalement des quartiers prioritaires, mais potentiellement aussi d'autres quartiers. Et là, on a, nous, des petits outils de communication qui permettent d'entrer en contact avec nous, ou bien c'est souvent par l'intermédiaire quand même des écoles et des collèges.
Alors, quelles sont les personnes faisant appel à vos services ?
Donc, les personnes qui font appel à nos services, donc comme je disais tout à l'heure, ils sont souvent orientés par des partenaires, et c'est souvent des personnes qui peuvent avoir des difficultés. C'est souvent des personnes qui sont un petit peu isolées et qui ont du mal à faire appel et à utiliser tout ce qui existe sur Villefranche qui pourrait les aider. Donc notre rôle, c'est aussi vraiment de les mettre en lien avec pas mal de choses qui pourraient aider notamment leurs enfants dans l'éducation.
Quand vous dites pas mal de choses qui puissent aider leurs enfants, vous pensez à quoi principalement ?
Au niveau de la ville, il y a beaucoup de structures qui existent. Il y a le service jeunesse, par exemple, qui propose de l'accompagnement à la scolarité, des centres aérés. Il y a la médiathèque qui est ouverte à tout le monde. Et pour les enfants, par exemple, les cartes de médiathèque sont gratuites. Il y a beaucoup de choses comme ça, des clubs de sport. Parfois, les familles, pour différentes raisons, ne vont pas forcément être en capacité d'aller dans ces lieux. Ils n'osent pas ou ils pensent que... ils vont pas forcément être soit bien accueillis, soit savoir comment faire les démarches. Après, on a aussi beaucoup de familles qu'on aide sur des questions de santé. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être orientés, par exemple, chez des orthophonistes ou des psychologues. Et c'est un peu compliqué de trouver des professionnels, donc on peut accompagner aussi dans ces démarches. Enfin, on essaye.
D'accord. Il y a d'autres situations sociales dans lesquelles on vous demande de l'aide,
Ben, comme nous, on est quand même vraiment plus sur des questions éducatives, mais clairement, les personnes qui font appel à nous, ça peut arriver que ce soit des personnes qui soient en difficulté aussi sociale, mais nous, on les met vraiment en lien avec des assistantes sociales de secteur, par exemple, ou d'autres travailleurs sociaux qui peuvent les aider sur leurs difficultés plus sociales. On connaît très bien le tissu associatif, ce qui nous permet de renvoyer vers d'autres professionnels quand il y a d'autres difficultés que ce que nous, on peut gérer vraiment au niveau éducatif.
Donc, quel est le statut du CIAS ?
Alors, le CIAS, donc Centre Intercommunal d'Action Sociale, c'est une collectivité, en fait, un établissement public qui dépend de l'agglomération de Villefranche. Donc, voilà, on est une collectivité publique, mais un petit peu en fonctionnement associatif aussi. On est basé sur un des quartiers.
Combien avez-vous de personnes travaillant chez vous ?
On est une équipe de 5 personnes. Moi, je suis donc la responsable. Après, il y a 2 personnes, Maud et Sébastien, qui accompagnent les enfants dans le cadre du dispositif du programme de réussite éducative. Et puis, on a une collègue qui est plus sur la mission parentalité, qui s'appelle Ouda. Et on a une autre personne à temps partiel qui s'occupe de toute la gestion administrative de la structure.
Cela fait combien de temps que vous travaillez pour la CIAS ?
Ça fait presque 3 ans.
Vous êtes entrée dans la CIAS parce que c'était votre objectif, ça vous tenait à cœur ?
Bah, j'ai travaillé souvent en fait dans le milieu de la solidarité. Je travaillais à l'international dans des associations humanitaires pendant un certain temps. Et je travaillais plutôt donc à l'international, en Inde principalement. Après, j'ai travaillé plutôt sur Lyon. Et en arrivant, je voulais me rapprocher de mon habitation. Donc en arrivant sur Villefranche, j'ai travaillé avec une association qui s'appelle l'association LEMA, notamment sur de l'hébergement d'urgence. Et puis voilà, il y a eu cette opportunité et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler notamment avec les enfants parce qu'on se rend compte que voilà, on est beaucoup dans la prévention quand on peut faire des choses avec les plus petits, c'est les adultes de demain.
Merci madame.
Merci.
Merci à vous.
Merci
beaucoup. Et bonne suite.
Merci à Périne Spé d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir éclairé sur le CCIAS.
Une pause musicale avec Kids United, on écrit sur les murs.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Tout nous l'a écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface.
Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs
qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Calade.
100.9 Calade.
Le Secours Populaire est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. L'association est reconnue dans le domaine de la solidarité d'urgence.
Pour nous en parler, Dominique Chétaille, responsable de l'antenne du FPF Villefranche. Bonjour, nous allons vous présenter le Secours Populaire à l'aide de Dominique Chétaille ainsi que de bénéficiaires.
Bonjour Dominique Chétaille, est-ce que vous pouvez vous présenter, savoir qui vous êtes ?
Je suis donc au Secours Populaire, je suis secrétaire générale adjointe, sachant que le Secours Populaire est organisé en tant qu'association indépendante, donc Villefranche est une association indépendante, mais qui fait partie d'une fédération nationale. Voilà. Donc nous entrons bien dans les objectifs du Secours Populaire au niveau national, mais nous avons une certaine liberté d'action, de choix, de priorité à mettre en œuvre.
Quels sont vos objectifs ?
On a élaboré d'ailleurs un projet, qui est un projet associatif, et les orientations majeures, ce sont essentiellement le fait de faire des activités, des propositions en tous les cas, aux bénéficiaires pour qu'on soit dans des actions qui relèvent beaucoup plus de l'accompagnement plutôt que de l'assistanat. De considérer d'ailleurs que la relation humaine fait partie des besoins essentiels, donner pour manger, pour se vêtir, donner des aides financières pour que les enfants puissent faire du sport ou d'avoir des activités pour les familles aussi d'ailleurs, c'est important. Mais c'est vrai que la relation humaine est très importante. Ça, c'est un axe majeur. À ce titre d'ailleurs, nous sommes très favorables pour que les bénéficiaires puissent aussi être bénévoles, ce qui constitue une étape dans leur parcours d'inclusion sociale. Comme autre axe majeur que nous avons, c'est d'essayer de diversifier notre public bénéficiaire, car nous nous rendons compte, comme beaucoup d'associations, que certains publics sont peu captifs. Il s'agit notamment des personnes âgées, ou en tous les cas des personnes qui, par pudeur, n'osent pas venir ou qui considèrent qu'il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles qu'elles, alors qu'elles-mêmes vivent des situations difficiles. Un autre axe majeur, il y en a d'autres, mais c'est essentiel, c'est l'écologie. Nous voulons vraiment, nous inscrivons résolument dans cette priorité.
Qui a le droit au secours populaire ?
Enfin, toutes les personnes qui sont en situation de précarité. La plupart des personnes qui s'adressent à nous sont quand même des personnes qui sont orientées par des assistantes sociales. Voilà, donc leur situation a déjà été étudiée sur plusieurs critères. Bon, il y a aussi des personnes qui se présentent spontanément et on étudie leur dossier au vu d'une situation, évidemment d'une situation financière. Et puis, le secours populaire, ce sont des aides qui sont des aides récurrentes, régulières, mais ce sont aussi des aides de secours. Et là, bon, c'est au coup par coup, en fait. Hein.
Et il y a une moyenne d'âge, entre guillemets, qui
ressort.
Oui, c'est ça.
Là, sur l'ensemble des bénéficiaires, il y a 43% d'enfants, donc de moins de 18 ans. Des jeunes 18-25 ans, je parle bien sûr de Villefranche, hein, 8,5%. C'est pas étonnant parce qu'on n'est pas, on n'est pas une ville universitaire. Adultes 46%, seniors peu, 2,5%.
D'accord. Et par exemple, comment on pourrait vous aider le Secours Populaire en étant bénévole ou en faisant des dons ? Comment c'est possible de vous aider ?
Ah, il y a la possibilité effectivement de faire des dons financiers, tout à fait. Il y a aussi la possibilité d'organiser des collectes. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, grâce à l'école Notre-Dame et l'association des parents d'élèves, qui s'est mobilisée pour que les élèves, chacun dans leur classe, puissent collecter. Alors c'était des denrées alimentaires, mais c'était aussi des produits d'hygiène, c'est très important, et puis des livres. Voilà. Après, il y a aussi tout ce que les personnes peuvent spontanément venir amener, donner au Secours Populaire en tant que vêtements, parce qu'on fait des tri, on propose après. Alors, pour les bénéficiaires des vêtements, gratuitement, et puis c'est aussi une boutique qui est ouverte à tout le monde, à des prix extrêmement bas, boutique Deuxième Vie, c'est mieux que Vinted, parce qu'il n'y a pas de coût de transport, donc le coût énergétique, il est nul. Et l'argent que nous dégageons nous permet de financer notamment des séjours en vacances pour les enfants ou des activités sportives pour les enfants ou pour les familles aussi, bien sûr, des séjours de vacances pour les familles.
Et du coup, vous vous situez que sur Villefranche ou il y a d'autres
structures
voilà.
Merci. Oui, évidemment, il y en a. Ben, alors, il y a dans les grandes agglomérations, bien sûr, qui sont créées d'ailleurs avant les villes de moindre importance. Mais là, par exemple, il y a un comité de secours populaire qui s'est créé il n'y a pas très longtemps à l'Arbrelle. Il y en a un à Belleville, Saint-Jean-d'Ardière. Ça, souvent aussi, ça dépend un petit peu des initiatives personnelles. Mais il y en a partout en France. Oui.
D'accord. Selon vous, est-ce que la pauvreté a augmenté à Villefranche à cause de la crise du Covid ou pas ?
Ah oui, ça c'est indéniable. Le Secours Populaire le constate. Si on se réfère aussi à ce que disent d'autres associations caritatives, on a quand même une augmentation des fréquentations, bien sûr, qui paraît très, très nette. Alors, de la part de jeunes, ça c'est d'ailleurs un constat qui est fait au niveau national. Les médias s'en font l'écho. Et aussi des familles monoparentales, des femmes qui sont dans des situations de détresse.
Avec le témoignage de deux bénéficiaires qui nous font le plaisir d'être avec nous.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Eddy Mickey, et par rapport à cette crise-là, le Covid, donc on s'est retrouvé à la rue, quoi. Eh bien, carrément, qu'on s'est retrouvé à la rue, et justement, j'ai trouvé l'association de cette dame, et qui m'a bien dépanné, quoi. Autrement, ben, on est les nouveaux pauvres, hein, comme on dit. Hein. Donc je remercie bien cette dame qui m'a aidé. Et voilà, quoi, et ça me... On souffle un peu les deux bouts, quoi. Parce qu'on a plus 20 ans, et après 58 ans, ben, dans le marché du travail, t'es un petit vieux, quoi.
Et vous ?
Bonjour, je m'appelle Hermès Sabrina. Je suis bénévole et bénéficiaire. Vous m'avez dit 2 ans.
Comment avez-vous découvert le Secours Populaire ?
Je promenais mon chien et j'ai vu du monde à côté et tout. Et voilà, quoi. Et je me suis renseigné, on m'a dit que c'était le... Moi, je ne connaissais pas du tout, quoi.
Voilà, je suis avec le Secours Populaire depuis 4 ans, depuis 2017. Et c'est mon assistante sociale qui m'a orientée vers le Secours Populaire. Et quand je ne travaillais pas et je ne travaille plus, et ben, j'ai demandé d'être bénévole. C'est comme si... de donner quelque chose, parce que le Secours m'a donné quelque chose. Il va m'aider, alors j'ai du temps, alors je vais m'en consacrer le temps pour le Secours Populaire. Et je suis bénévole avec d'autres associations aussi. Voilà.
Sans indiscrétion, comment vous en êtes arrivé à là ?
Eh bien, c'est une longue histoire. Je suis arrivée en France en 2015, décembre 2015. Et je suis pas allée dans des associations parce que j'avais mes ressources. Et puis quand j'avais plus de ressources, je suis allée à l'assistance sociale qui m'a orientée vers le Secours Populaire.
J'avais un petit commerce et tout. Ouais. Et je suis faillite, quoi. J'ai fait un dépôt de bilan. Et je me suis retrouvée après au RSA. Et après, ça a été une chute en enfer, quoi. C'est voilà, quoi. T'as un minimum pour vivre. Et tu te démerdes, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà.
Si je peux me permettre, on appelle ça de la spirale d'exclusion. C'est qu'il y a une situation qui est une situation difficile, de crise, à un moment donné, qui est vécue par la personne. Et ça en emmène une autre, ça amène une autre. Et puis ça s'enchaîne. Et c'est de plus en plus difficile, quoi, de s'en sortir.
Comment s'est passée votre rencontre avec le Secours Populaire et comment vous avez été accueilli ?
Ben moi, personnellement, j'étais vraiment bien accueilli. Ouais, je suis tombé sur des gens, ils m'ont pas jugé. ma religion, mon âge, tout quoi. Et franchement, j'ai connu ça que chez eux.
D'accord.
Dans ma vie, hein, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai rencontré tas de gens, des gens bien, des gens mal. Mais voilà quoi, tu vois qu'ils sont là pour ça, tu vois, ils sont là pour t'aider. Tu sais d'où tu viens, d'où tu arrives, tu sois polonais ou ce que tu veux, ou voilà quoi, ils en ont rien à foutre quoi.
Et vous ?
C'est aussi la même chose, j'ai été très très bien accueillie, autant que bénéficiaire, et c'est pour ça que j'ai demandé d'être bénévole avec eux, parce que j'ai vu l'hospitalité, l'humanité, tout ce qui est humain, c'est le Secours Populaire, sincèrement, ça m'a touchée, c'est pour ça que je voulais être, j'étais juste une semaine bénéficiaire, ou deux semaines après, j'ai demandé d'être bénévole, hein. Voilà.
Un des slogans du Secours Populaire, c'est « Ce qui est humain est nôtre ».
Donc c'est tout ça qui vous a donné envie de soutenir le Secours Populaire ?
Oui, oui. Et le Secours Populaire, pour moi, c'est ma famille, là en France. C'est ma deuxième famille, sincèrement. C'est toutes les personnes qui travaillent, ils sont très humains, ils sont très gentils. Et sincèrement, c'est ma famille, voilà. Je suis très contente d'être avec et très reconnaissante pour le Secours Populaire.
En tant que bénévole, qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de l'association pour aider justement ?
J'ai commencé avec l'accueil.
D'accord.
Après, je suis responsable l'alimentaire. On peut dire référente, c'est ça ?
Oui, référente. Oui.
Voilà, référente. Je fais les commandes. C'est moi qui fais les commandes alimentaires au niveau de la Fédération du Rhône. Et c'est moi qui, par exemple, chaque jeudi, chaque 15 jours, je fais la commande. Et dans 15 jours, ça veut dire qu'on aura la livraison. Je D'accord. serai toujours présente pour faire le tri, pour faire l'organisation, tout ce qui est alimentaire, quoi. Alimentaire et hygiène.
D'accord.
Et puis, il y a l'atelier qui est en stand-by, mais...
Oui.
L'atelier d'alphabétisation aussi,
oui,
quand
je
même.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Je fais des cours de français pour les débutants. Pour ceux qui parlent pas le français, pas du tout, qui parlent anglais, parce que je suis anglophone aussi, et qui parlent arabe. J'ai l'avantage d'être pour communiquer avec eux, pour parler en français, pour écrire et lire. C'est très important d'être intégré en France.
Merci.
Alors en plus, je compte sur eux deux pour s'impliquer dans le projet écologie.
Oui.
Merci, et on remercie les personnes qui nous ont aidés, et on a trouvé ça vraiment très intéressant.
Le Secours Populaire est situé 190 rue Gantillon à Villefranche. Ouvert le lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. Leur numéro de téléphone est le 04 74 60 65 58.
Nous remercions nos interlocuteurs qui nous ont aidés à réaliser cette interview. Nous avons trouvé l'expérience vraiment intéressante. Merci beaucoup. Et maintenant, une pause musicale avec Claudio Capeo, Un homme debout.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, à peine le temps ne font que courir. Merci.
Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout.
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'adresse. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie à vendre.
Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le
que je m'en sorte. Prie pour que mieux je me porte. Ne me jette pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps, j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps, j'étais.
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire française fondée en 1864.
Comme le SPF, ses missions fondamentales sont l'urgence.
Mais aussi le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et plus particulièrement l'action internationale.
Vous allez maintenant écouter l'interview d'Alain Marron, trésorier de la Croix-Rouge de Villefranche, qui nous présente l'activité de celle-ci. Dans ce domaine de la lutte contre la précarité sur la Calade, Alain Marron.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vous appelez ?
Alors, je m'appelle Alain Marron.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Bien sûr. En fait, je suis retraité depuis de nombreuses années et j'ai rejoint la Croix-Rouge il y a maintenant 5 ans.
Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement la Croix-Rouge ?
Oui. Donc, la Croix-Rouge est une association, loi 1901, qui a été créée en 1945. On a donc fêté ces plus de 150 ans, il y a quelques années.
À quelles actions vous avez déjà participé au sein de la Croix-Rouge ?
Alors, au sein de la Croix-Rouge de Villefranche, on s'occupe énormément donc des personnes vulnérables. C'est-à-dire, vous savez qu'à Villefranche, c'est un espèce de carrefour où de nombreux demandeurs d'asile viennent. Il existe plusieurs foyers, dont la DOMA. Et donc, ce sont des gens qui sont en attente d'un permis de séjour. Donc, on travaille, je dirais, énormément avec ces foyers, de manière à venir en aide à ces personnes qui touchent donc pratiquement peu d'argent et qui viennent à la Croix-Rouge pour équiper leurs enfants en vêtements, recevoir éventuellement des chèques d'achat pour leur nourriture. Donc c'est ce qu'on appelle l'accueil-écoute. On a également une activité qui s'intitule les ateliers du jeudi. Et là, on reçoit des femmes qui, pour se sortir un petit peu de chez elles et s'éloigner un petit peu de leurs enfants, on leur propose des activités de tous ordres et elles font ça donc tranquillement. Elles peuvent discuter aussi entre elles, ça leur donne un espace de liberté. On développe également aussi, c'est quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle l'inclusion numérique. On a également une activité donc qu'on appelle la vestiboutique qui nous permet de financer toutes les autres activités que l'on peut faire auprès des personnes. Donc cette vestiboutique, c'est une vente de vêtements de deuxième génération, si je puis dire. On a aussi une activité qu'on appelle le microcrédit. Alors ce n'est pas un crédit qui va très 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 loin, mais enfin qui peut quand même s'élever à 5000 euros et qui peuvent le permettre, par exemple, d'acheter un véhicule pour se rendre au travail, enfin bon, etc. Donc on développe ça. On a aussi aujourd'hui une activité qu'on cherche beaucoup à développer, à nous rendre auprès des personnes âgées. On leur a apporté pendant cette période de confinement ce qu'on a appelé des paniers solidaires. Et donc on voudrait développer cette activité pour rendre visite chez ces personnes qui sont isolés. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Parce qu'on fait beaucoup de choses. On a surtout, alors effectivement, la grande partie, c'est l'alphabétisation. Et donc, on leur fait passer des examens qui s'appellent le DELF et qui sont utiles pour leur demande de carte de séjour. J'ai oublié aussi de vous dire une chose qui est importante, c'est qu'on organise aussi des maraudes.
Où est située la Croix-Rouge à Villefranche-sur-Saône?
Alors, la Croix-Rouge à Villefranche-sur-Saône est un peu cachée. Est-ce que vous connaissez le centre commercial où se trouvent Decathlon, Cultura, The Maxiso, enfin bon, etc. Ça s'appelle le quartier de la Lagune. Donc, c'est situé vers Lidl, le nouveau supermarché. Donc, voilà, nous sommes là. Donc, l'adresse exacte, c'est 1860 route de Jassan. Mais si vous allez sur cette route, on a quand même un panneau qui indique que la Croix-Rouge est là. Mais les gens, souvent, hésitent parce qu'on est obligé de passer par une usine. Donc, voilà. Mais tout est ouvert, voilà, nous sommes là.
On voulait savoir aussi le nombre de personnes qu'il y a à la Croix-Rouge de Villefranche-sur-Saône.
D'accord. Alors, à Villefranche-sur-Saône, nous sommes 155. Et la Croix-Rouge de Villefranche-sur-Saône regroupe également la Croix-Rouge de Tarare et de Tizi.
D'accord.
Donc, l'ensemble de ces trois équipes représente 250 personnes à peu près. Mais là, on va se séparer donc cette année, et de manière à rendre plus autonomes les équipes, parce que bon, vous connaissez Tarare et Tizi, comme voilà. Oui. Donc c'est pas tout à fait les mêmes populations, c'est plus les mêmes territoires. D'ailleurs, sur le plan politique, donc ce sont deux communautés différentes. Donc on va se séparer donc au 1er janvier 2022. Et on est en train de préparer cette séparation.
Et quel type de personnes sont en besoin et viennent principalement à la Croix-Rouge?
Alors, je dirais que ce sont donc les demandeurs d'asile. Ce sont, oui, toutes ces personnes qui sont en attente et qui ont beaucoup de difficultés financières. Alors on est en étroite liaison bien sûr avec les Restos du Cœur, et donc les Restos du Cœur, eux, vont distribuer de l'alimentaire et ils vont nous envoyer des familles qui, elles, vont avoir besoin de vêtements, soit pour eux-mêmes, soit pour des enfants. Donc, on distribue énormément de vêtements aussi. On distribue aussi beaucoup de produits d'hygiène.
Est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui sont dans le besoin, ou il y a aussi des personnes âgées?
Alors, je dirais que les personnes âgées viennent peu. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller à leur rencontre. Soit parce qu'elles n'osent pas, soit parce qu'elles n'ont pas de possibilité de se déplacer. Donc non, je dirais que les gens qui viennent vers nous sont des personnes qui ont déjà la possibilité de se déplacer. Alors je ne veux pas dire par là qu'elles ont toutes un véhicule ou quoi que ce soit, non, mais elles peuvent prendre des transports en commun, elles peuvent marcher à pied.
Et quel est votre regard sur la pauvreté à Villefranche-sur-Saône?
Je dirais que chaque année, on a davantage de distributions financières à faire. Donc, il est certain que c'est malheureusement quelque chose qui ne baisse pas. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin. On a, je dirais, entre guillemets, les gens de Villefranche ont la chance d'avoir un maillage d'associations caritatives importants. Il existe beaucoup d'associations comme la Croix-Rouge, bon, qui font peut-être pas la même chose, mais qui aident toutes ces personnes en difficulté.
Eh ben, merci d'avoir répondu aux questions.
Eh ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à la précarité. Merci en tout cas.
Merci à vous. Nous tenons à remercier Alain Marron d'avoir accepté de répondre à nos questions, et nous terminons en musique avec Attention au départ, chanson réalisée par la Croix-Rouge de Clichy-la-Garenne.
Actu Calade.
Nous ont fait l'honneur de pouvoir les interviewer à travers l'une de leurs bénévoles les plus fidèles, Françoise Berlioz.
Une interview réalisée par Louis, Léon, Yanis et Axel. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour. Bonjour. On va vous poser des questions concernant votre association sur les Restos du Cœur.
Oui.
Donc je vais commencer. Depuis combien de temps êtes-vous bénévole? Quelles sont les raisons de votre implication?
Alors, je suis bénévole depuis 8 ans. Et les raisons de mon implication, c'est que quand j'ai arrêté de travailler, j'avais envie de découvrir autre chose. J'étais assez fan de Coluche, quand même, qui est le créateur des Restos du Cœur. Et voilà, je voulais m'engager dans cette association pour Coluche et le fait d'aller aider les personnes les plus démunies.
Notre deuxième question, ce sera quelles sont les tâches principales des restos et celles qui sont un peu moins connues du grand public?
Alors, la plus connue, évidemment, c'est l'aide alimentaire, hein, c'est fournir des repas aux bénéficiaires. Il y a plein d'autres choses à côté. Je vais surtout vous parler de celles que l'on peut faire à Villefranche-sur-Saône. On a... Je parlais hors Covid. Hein. On a une cafétéria où l'on sert entre 90 et 110 repas tous les mardis, tous les vendredis. On a un vestiaire bébé. On a des cours de français. On a des cours d'informatique. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait de l'aide à la personne, c'est-à-dire de l'aide un petit peu pour aider les gens dans leurs papiers, de l'aide juridique s'ils en ont besoin, du microcrédit. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on fait à Villefranche. En dehors de ça, il existe beaucoup de choses dans les autres centres des restos. Il existe les toits du cœur, hein, on loge des gens, on fait des jardins partagés, on fait des ateliers d'insertion. Voilà, j'en passe. Non, voilà. Mais déjà, au moins pour Villefranche, vous savez à peu près ce qu'on fait à Villefranche comme ça.
Ok, merci. Et qu'est-ce que vous préférez en tant que bénévole? Ce qui est le plus difficile aussi en tant qu'aide?
Alors, ce que je préfère, c'est le travail en groupe qu'on peut faire tous ensemble, dans une très très bonne ambiance. Le plus difficile, c'est d'accueillir certaines personnes qui ont rencontré de très très grosses difficultés, notamment tout ce qui est personnes étrangères qui sont arrivées en France par des biais divers et variés, hein, qui ont subi beaucoup de choses. La détresse des familles, des femmes seules avec des enfants, ça c'est un peu le plus compliqué. Voilà.
Alors, on avait une question. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon bénévole?
Être altruiste, pour commencer.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire donner pour les autres.
Okay.
Voilà. Okay. Savoir travailler en groupe, savoir garder des choses pour soi. C'est-à-dire, on peut penser au Resto du Cœur, mais on ne dit pas tout. D'accord, parce que il y a des choses qui peuvent énerver. Voilà, donc il faut savoir aussi garder les choses pour soi. Et puis être toujours de bonne humeur, parce que les gens qui sont en face de nous, ils ont besoin de notre bonne humeur pour continuer à avancer.
Et est-ce que vous êtes formée?
Oui. Alors en plus, moi je suis animatrice de formation au Resto du Cœur, c'est-à-dire que tout bénévole qui rentre au resto a un minimum une première journée de formation à faire qui s'appelle le mieux connaître les restos. Et puis au fur et à mesure du temps passé au resto, s'il veut se spécialiser sur une activité particulière, il y a d'autres formations pour se spécialiser.
Combien de temps consacrez-vous au resto pour une semaine? Pourquoi avez-vous choisi les Restos du Cœur plutôt qu'une autre association?
Alors, combien de temps? On va dire en temps normal, là c'était un peu compliqué, parce que c'était beaucoup plus longtemps parce qu'on a eu la collecte nationale. Mais combien de temps? C'est 2 jours par semaine plein, de 7h30 à 17h le soir. Et pourquoi j'ai choisi cette association, c'est ça?
Oui,
ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que voilà, c'était vraiment lié à Coluche.
Okay.
Ensuite, on va vous demander, est-ce que des personnes qui ont un jour été dans le besoin sont devenues aujourd'hui, maintenant, des bénévoles?
Oui. Et on a aussi des bénévoles bénéficiaires. C'est-à-dire que des gens qui sont servis au resto, mais qui sont en plus bénévoles chez nous en même temps.
Est-ce que la grande collecte de cette année elle a été bénéfique pour vous ou pas?
Oui, on est en plein comptage là. On avait 13 tonnes l'année dernière, on va dépasser les 15 tonnes cette année.
Est-ce que vous pensez que c'est lié notamment à la crise du Covid qui a sensibilisé un peu plus le grand public?
Bien sûr, c'est évident. C'est évident que les gens se sentent concernés, se disent que peut-être un jour ils seront malheureusement du mauvais côté de la barrière. Et je pense que ça a beaucoup servi grâce à ça.
Est-ce que vous avez pu remarquer une hausse de la demande, notamment auprès des étudiants qui sont dans le besoin ?
Alors, c'est compliqué à Villefranche parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, puisqu'il n'y a pas de centre universitaire, etc. Malgré tout, ça l'est dans le Rhône, et notamment à Lyon, où on a créé un centre spécifique pour accueillir les étudiants, mais pas spécifiquement à Villefranche.
Est-ce que, du coup, vous nous avez dit qu'il y avait une forte demande suite à la crise sanitaire ?
Oui, il n'y a pas une forte demande. Il n'y a pas le même type de population qui vient nous voir.
Une hausse ?
Il n'y a pas tant que ça de hausse, en fin de compte. Il y a une hausse au niveau des dons, mais en termes de personnes qui viennent franchir la porte des restos, il y a même moins de monde que l'année dernière. Sauf que les profils ne sont plus les mêmes.
De combien est le coût d'un repas pour une personne ?
Ça, c'est une bonne question. Quand les enfoirés vendent le DVD, ils disent qu'un DVD, c'est 17 repas. Alors, le prix du DVD, je ne sais pas, il doit être autour d'une vingtaine d'euros. Donc, ça voudrait dire que le repas est autour d'aller à 1,50€, peut-être.
D'accord. Et il y a eu une différence de prix par rapport à la crise sanitaire du Covid ?
Non. Non, pas du tout. De toute manière, sachez que les gens qui viennent au Resto du Cœur ne payent rien du tout. Oui. Hein. Tout est gratuit au Resto du Cœur.
D'accord.
Est-ce que des centres... pour aider les personnes qui ont du mal à accepter, qui sont dans le besoin, sont mises en place quand elles arrivent au Resto du Cœur ?
Alors, elles ont un accueil particulier, effectivement. Elles sont reçues par un binôme de ce qu'on appelle d'inscripteurs, d'accord, qui les reçoit dans un bureau et puis qui commence à discuter un petit peu. Faut savoir que les gens qui viennent au Resto du Cœur, la première chose, ils viennent pour l'aide alimentaire. D'accord. Nous, après, on peut leur proposer plein d'autres activités, hein, du cinéma, du théâtre, aller au foot, etc. Mais la première chose, ils viennent d'abord pour un colis alimentaire. Donc voilà, on essaye de les mettre en confiance. C'est jamais très simple de franchir la porte des restos, mais voilà, on essaye de faire pour le mieux.
Et du coup, j'avais une dernière question. En fait, vous êtes une sorte de famille un peu...
Oui, c'est tout à fait ça. Famille des Restos du Cœur, c'est ça. On est de 75 000 bénévoles en France, 2500 bénévoles dans le Rhône, et le centre des restos de Villefranche, on était une centaine avant le Covid, on est un petit peu moins, mais voilà, oui, c'est une famille, c'est tout à fait ça.
D'accord. Bon, bah, on a à peu près fait le tour des questions, il me semble.
Oui, merci ça beaucoup fait. Pour le temps que vous nous avez accordé.
Ouais, je merci. Vous en prie, c'est avec
beaucoup.
Plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Eh bien, nous espérons que cette interview vous aura plu et nous vous remercions de votre écoute.
Et tout de suite, les enfoirés des Restos du Cœur en chanson Liberté.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes dégradées,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jardin,
sur les coins de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
j'écris ton nom.
Sur tous mes chiffons d'azur,
sur les temps soleil moisi,
sur le lac lune vivant,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des sombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux,
sur les montagnes des montes,
j'écris ton nom.
Sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sage,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris
mes amis.
Sur chaque main qui s'étend, j'écris ton nom.
Bonjour, nous avons rencontré Sonia Bourreau, responsable de l'antenne L'épicerie sociale et solidaire, Oasis d'amour, accompagnée de Valérie Morel, bénévole.
L'association Solidaire se situe au 1377 rue de Tarare à Glessé. Voici l'interview.
Présenté. Sonia Bourreau, responsable de l'épicerie sociale et solidaire de Glézé.
Bonjour, Valérie Morel, bénévole à l'épicerie sociale de Glézé.
Quand a été créée cette association ?
Fin 2013.
Et par qui ?
Par Anne-Marie Vincent Giraud, docteur à Décines.
D'accord, merci.
Quel est le but et l'objet de l'épicerie solidaire ?
Le but, eh bien, c'est venir apporter une aide à des familles précaires, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des familles qui travaillent, mais qui rencontrent un problème financier. Donc, l'épicerie, d'où sociale et solidaire. Et puis, surtout aussi, plus important, pour une... tranche de population, ce qu'on appellerait les invisibles, c'est-à-dire des personnes qui ont travaillé toute leur vie, mais qui, elles, ne feront jamais la démarche d'aller voir un travailleur social.
D'accord.
Voilà.
Et quel est le fonctionnement du service ?
Le fonctionnement, nous avons donc, nous sommes ouverts déjà 3 jours par semaine, donc nous sommes approvisionnés principalement tout ce qui est produits secs, hygiène, par notre siège. Oasis d'amour international et par les ramasses. Ramasses, c'est un partenariat avec des supermarchés.
Le fait que ce soit moins cher, ça veut dire que les produits sont de moins bonne qualité ou
ah non, pas du
tout. De bonne qualité
à... Non, c'est des produits de bonne qualité.
D'accord.
Mais qu'ils achètent au plancher.
D'accord.
Les produits viennent de producteurs locaux ou pas, en particulier pour l'alimentaire, ou c'est
alors,
pour de grandes surfaces ?
Locaux, grandes surfaces, et puis on fait des achats aussi.
D'accord.
Tout ce qui est par exemple les couches, les choses comme ça, ça, les grandes surfaces, elles n'en ont jamais à jeter. Donc ça, on les achète. Le lait pour tout ce qui touche le petit enfant, on achète tout.
D'accord.
Et qui peut avoir accès à cette épicerie ?
Toutes les personnes qui rencontrent des difficultés financières. Une rupture, par exemple, la CAF qui suspend les droits, quelque chose qui vient perturber le budget, ils peuvent s'adresser à nous.
Combien y a-t-il de personnes dans cette association ?
Alors, personnes bénéficiaires ou bénévoles, équipe ?
Les deux.
Les deux ? Alors, nous servons 150 familles par semaine, sur 3 jours, hein. Et nous avons une équipe de 37 bénévoles.
Est-ce que dans votre association, tout le monde sont des bénévoles ou vous possédez aussi des salariés ?
Il y a des permanents salariés, mais on va dire que le plus gros, c'est les bénévoles. Et sans les bénévoles, nous ne pourrions pas tourner.
D'accord. Et donc, quelle est la différence entre les bénévoles et les salariés ?
Un bénévole, c'est un acte gratuit.
D'accord. Donc, vous, Valérie, qui êtes bénévole, quelles ont été vos motivations, en fait ?
Venir en aide aux personnes en difficulté, en précarité.
Ouais. Avez-vous le même rôle qu'un salarié en tant que bénévole ou vous avez des activités différentes ?
Alors, en tant que bénévole, je suis un peu affectée un peu partout, moi, personnellement. Au tri des fruits et légumes, à la mise en rayon et aux produits frais, aussi.
D'accord.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour finir cette interview ?
Oui.
Je vous écoute.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pendant surtout les périodes de vacances scolaires, où les bénévoles, eh bien, elles ont aussi une vie, elles ont des petits-enfants pour certaines. Donc, par les vacances scolaires, il nous manque du monde.
D'accord.
Voilà, c'était Merci. Mon petit message.
Merci. Merci à vous d'être venu.
Merci à vous.
Merci.
Merci pour votre accueil.
Nous pouvons dire que l'épicerie solidaire consiste à vendre des produits à faible prix à des personnes qui y sont dans le besoin.
L'épicerie est ouverte les lundis, mardis et jeudis, de 13h à 17h. Nous remercierons Sonia Bourreau et Valérie Morel de s'être déplacées pour participer à l'entretien.
Nous allons maintenant écouter le titre « À cœur ouvert » de Jaja et Dinaz.
L'humain noirci par l'argent, je donne nuage de fumée.
porte tu laisses ouverte. Je te rejoins dans la nuit, dans mes bras jusqu'au matin. Je veux plus changer d'avis, ça durera toute une vie. Je veux plus changer d'avis. Loin du monde, ça changera nos humeurs. J'étais dans l'ombre avant de voir la lumière. Désolé si je suis pas romantique. Remercie-moi de rester authentique. Elle veut les diamants, pour ça j'ai ramé. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. Elle veut les diamants, pour ça j'ai ramé. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. J'suis à deux doigts de me faire du mal. Y'a pour eux que j'suis sans pitié.
Moi j'suis sans pitié.
Trahi par l'omerta. J'laisserai personne nous juger. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. Elle veut frapper ou ça fait mal. Elle veut m'analyser. J'suis quelqu'un d'impulsif, mais j'apprends à me canaliser. On part pour faire les choses bien, y'a pas de je t'aime pour de faux. J'veux que tu sois solide et t'acceptes tous mes défauts. Blessures de guerre sont immortelles.
C'est pour la paix.
Pourtant j'déplacerai des montagnes.
Le jour, la nuit.
J'répondrai toujours à l'appel. Rien n'est trop cher sur l'offre du motel.
Non, non.
Elle veut les diamants, pour ça j'ai ramé. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. Elle veut les diamants. Ça j'ai ramé. T'es comme un diamant, on se connaît depuis gamin. J'suis à deux doigts de me faire du mal.
Deux doigts de me faire du mal.
Y'a pour eux que j'suis sans pitié.
Moi j'suis sans pitié.
Trahi par l'omerta. J'laisserai personne nous juger. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots.
À cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. À cœur ouvert. On s'éloigne trop.
Calade.
Actu Calade.
100.9.
Et pour conclure Actu Jeune, nous vous présentons quelques aides pour les jeunes. Pour commencer, Emmanuel Macron annonce de nouvelles aides pour début 2021 pour les jeunes. Dans un article du 7 décembre 2020, il nous dit que une nouvelle aide exceptionnelle pour les jeunes précaires devrait être débloquée au premier trimestre 2021 pour la lutte contre la pauvreté et il confirme son opposition à l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Une aide exceptionnelle de 150 euros avait été versée fin novembre aux moins de 25 ans après une première aide de 200 euros attribuée en juin.
Ces aides ont été jusque-là aperçues par les étudiants boursiers et par des jeunes non étudiants touchant les allocations de logement. Le président dit souhaiter également une amélioration du système de bourse pour débuter de l'année 2021. Alors que ces étudiants se retrouvent contraints dans le contexte actuel de demander de l'aide alimentaire, le président de la République rappelle la mise en place des deux piliers du plan « Un jeune, une solution ». La réforme de l'apprentissage et des aides aux employeurs d'apprentis. Le service civique également avec l'ouverture de 100 000 nouvelles missions.
D'autres mesures existent telles que le pass région. Le conseil régional peut aider à financer le permis de conduire ou le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueil collectif de mineurs. Le permis à 1 euro par jour. Ce dispositif concerne les permis B, voiture, le permis A1, moto, scooter ou tricycle de 125 cm3 maximum et A2, moto de puissance intermédiaire. Il permet aux 15-25 ans d'accéder à un crédit à taux zéro pour financer leurs cours de conduite sous réserve d'acceptation du dossier par l'établissement financier. Cette préparation au permis devrait être remboursée à hauteur de 30 euros par mois, les intérêts étant pris en charge par l'État. Pour bénéficier de ce prêt, le jeune doit s'inscrire dans une auto-école partenaire de l'opération et déposer son dossier de prêt auprès d'une banque également partenaire de ce dispositif.
Il existe également le compte personnel de la formation. Il est possible d'utiliser le dispositif du compte personnel de formation, CPF, pour l'aide au financement de son permis. Si l'obtention du permis est importante pour votre projet professionnel, Pôle emploi, sous certaines conditions, peut prendre en charge tout ou partie du financement du permis de conduire. Autre solution, la plateforme Mobilité 63. Pour les bénéficiaires du RSA et jeunes suivis en mission locale qui rencontrent des difficultés d'apprentissage nécessitant un parcours en auto-école sociale. Et enfin, le microcrédit social, une possibilité de financer son permis de conduire en utilisant le microcrédit social.
Il existe aussi des aides pour l'accès au logement. Qu'ils soient étudiants en apprentissage, en mobilité professionnelle ou demandeurs d'emploi, les jeunes de moins de 30 ans peuvent bénéficier de logements d'aide financière destinés à faciliter leur accès à un logement en 2021. Quelles aides en faveur des jeunes de moins de 30 ans ? APL, aide personnalisée au logement. ALS, allocation de logement social. Mobilis Jeunes, une aide au logement adressée aux femmes de moins de 30 ans, prenant en charge une partie de loyer durant une formation et versée par l'Action Logement. Locapass, un prêt à taux zéro destiné à couvrir la garantie demandée par le propriétaire lors d'une location. CAF, caisse d'allocation familiale. MSA, mutualité sociale agricole. Et ALF, allocation logement familial.
Pour ce qui est de l'alimentation, d'autres mesures d'aide existent. La cantine à 1 euro, annoncée par le président de la République le 13 septembre dernier, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoit parmi ses objectifs de réduire les privations au quotidien et de garantir à tous un accès à l'alimentation. L'État met en place une aide financière pour les communes et les intercommunalités fragiles afin que les enfants pauvres y résident puissent manger à la cantine pour 1 euro au maximum.
Bien entendu, en plus de toutes ces mesures institutionnelles, il existe de nombreuses structures associatives qui pratiquent la solidarité, celles que nous vous avons présentées durant l'émission et de nombreuses autres.
Actu Calade.
Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez nous retrouver prochainement sur le site www.radio-calade.fr. Nous remercions aussi la région Aura pour sa participation à notre projet radiophonique.
On vous laisse sur le titre « À 20 ans » de Moss.
Pour soi, devenir prince. Mais pourquoi faire? Moi je veux devenir roi. Moi j'ai 20 ans et à 20 ans on aimerait naître à Cuba. Les bords de zone, c'est bien moins classe. Et puis c'est beaucoup plus froid. De chaîne. Moi j'ai 20 ans et à 20 ans on préfère les caresses du soir, les moments de doute, les moments d'espoir et puis les emmerdes plus tard. Allez danse, allez chante, allez prends la vie comme un jeu, à l'évidence je ne veux pas vivre vieux. Allez danse, allez chante, allez prends la vie comme un jeu, à l'évidence je ne peux pas rêver mieux, moi j'ai 20 ans. Allez, danse,
mieux.